Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Ebola en République démocratique du Congo, le patron de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé ce lundi à l'Union face à l'épidémie de fièvre hémorragique dans le pays qui a fait 1160 décès depuis août, qualifiant le virus d'ennemi public numéro 1. Un appel lancé par le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus à l'occasion de l'ouverture de la 72e Assemblée de l'OMS, l'organe décisionnel suprême de cette agence spécialisée de l'ONU. J'ai rencontré le président de la RDC et des responsables de l'opposition et nous avons parlé ensemble des mesures à mettre en place pour lutter contre cette flambée parce que Ebola ne prend pas parti. Ebola, c'est l'ennemi public numéro un, a déclaré le docteur Tedros. L'actuelle épidémie de fièvre hémorragique, déclarée en août dans les provinces du Nord, Kivu et d'Ituri, dans l'est de la RDC, est la dixième et la plus grave enregistrée sur le sol congolais depuis 1976. Elle est aussi la deuxième la plus grave après celle qui a fait 11 000 morts en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016, principalement en Guinée, Sierra Leone et au Liberia. Politique en RDC maintenant, l'opposant congolais Moïse Katumbi est de retour aujourd'hui à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga dans le sud-est du pays. Son retour dans son fief katangais fait suite à la décision de la Cour de cassation d'annuler sa condamnation à 3 ans de prison. L'ancien gouverneur du Katanga estime que son pays a besoin de lui. On l'écoute.
Les Congolais savent ce que je fais pour le Congo. Mon bilan, surtout quand j'étais gouverneur de la province du Katanga. Ils ont vu le travail que je fais. Ils ont vu le résultat, le bilan. Quand je rentre, c'est pour être avec le mien, consoler le mien qui ont vécu l'enfer. Vous savez ce combat de l'opposition. Mon frère Félix, mon frère Martin, mon frère Jean-Pierre Bemba. Nous nous sommes battus pour qu'on ne puisse pas toucher à la Constitution, pour ne pas avoir un troisième mandat. Donc le plus important pour nous, c'est l'avenir de notre pays.
L'opposant congolais Moïse Katumbi, coordonnateur de la plateforme La Mouka, joint à Bruxelles par Raissa Girondin avant son retour en RDC. Et politique congolaise toujours, le président Félix Tshisekedi a reçu ce matin le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, la première visite d'un responsable de l'Union européenne de ce niveau depuis la présidentielle congolaise. La présidence de la République à Kinshasa avait auparavant annoncé une déclaration importante qui pourrait concerner le nom du premier ministre du président Tshisekedi, investi à la tête du pays depuis le 24 janvier. Ce futur chef du gouvernement sortira des rangs du Front commun pour le Congo de l'ex-président Joseph Kabila et sa nomination a fait l'objet de nombreuses discussions entre M. Tshisekedi et son prédécesseur. Plus de détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous avons la fumée blanche, rendez-vous la semaine prochaine, a dit le week-end dernier Félix Tshisekedi pour évoquer la nomination prochaine du Premier ministre aux 15 ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne accrédités à Kinshasa ainsi qu'à celui du Canada. C'était lors d'un déjeuner diplomatique institué par le président de la République dans le but, selon un communiqué, de promouvoir le rapprochement entre la RDC et ses partenaires. Ces derniers mois, Félix Tshisekedi a rencontré à plusieurs reprises l'ancien président de la République Joseph Kabila pour avancer dans les discussions concernant la nomination du Premier ministre. Et après autant de rounds de discussions entre le chef de l'État et son prédécesseur, chef de la majorité parlementaire, après avoir recalé plusieurs noms lui proposés par le Front commun pour le Congo, Félix Tshisekedi semble avoir fini par accepter le profil d'une personnalité qu'il devrait nommer cette semaine, près de 4 mois après son avènement à la tête du pays. Devrait rapidement suivre la composition du gouvernement qui est également en discussion entre les proches de Tshisekedi et de Kabila. Kinshasa, Thierry Kambondi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Cameroun, célébration ce lundi de la fête nationale du Cameroun, une fête placée sous le signe de l'unité. Et puis au Soudan, les militaires et les leaders de la contestation reprendront ce lundi soir les négociations marathon entamées la veille sur la composition d'un futur conseil souverain de transition, plus d'un mois après le renversement par l'armée de l'ex-président Omar al-Bashir. Fer de lance de la contestation, l'ALC, l'Alliance pour la liberté et le changement, a indiqué dimanche que les négociations se focaliseraient sur la répartition entre l'armée et le mouvement de contestation des sièges du conseil souverain, ainsi que son futur que sur son futur chef. Les généraux insistent pour y obtenir une majorité de sièges, tandis que les leaders de la contestation veulent limiter la présence des militaires et placer un des leurs à la tête de ce conseil souverain.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Violence au Mali, 7 personnes, 4 civils, plus 2 gendarmes et un douanier malien ont été tués dans la nuit dimanche à lundi dans le sud du pays lors d'une attaque contre le poste de Kouri, frontalier du Burkina Faso. C'est ce qu'ont annoncé ce lundi à l'AFP des élus locaux et des sources sécuritaires. Parmi les civils tués, 2 chauffeurs ghanéens. Un élu de la localité a déclaré qu'un des 2 gendarmes tués était une femme. Selon cet élu, les assaillants sont arrivés sur 3 motos et à bord d'un véhicule. Ils ont tiré sur les gendarmes, les douaniers et des civils chauffeurs de camions. Et ils auraient pris des rangers, des chaussures de militaires en partant. Kouri est un important point de passage des marchandises au départ et à destination du Mali. Et toujours concernant ce pays, fin de la grève des enseignants du secteur public, les cours reprennent ce lundi suite à la signature d'un accord entre le gouvernement et le syndicat de l'éducation nationale. Le spectre d'une année blanche s'estompe pour les écoliers maliens. Jacques Aristide.
Depuis plusieurs mois, les enseignants déclenchent des mots d'ordre de grève très suivis qui ont notamment entraîné des manifestations de professeurs et d'étudiants. L'accord en 10 points a été conclu au cours d'une rencontre avec le Premier ministre Boubou Cissé durant le week-end écoulé. Il prévoit notamment l'octroi aux enseignants d'une prime de logement et d'une prime de documentation. D'après le gouvernement, les parties sont notamment convenues de 20 000 francs CFA de majoration de l'indemnité de résidence. Pour le ministre du Travail, Oumar Madoun Diko, il n'y a ni perdant ni gagnant, c'est le Mali qui gagne, dit-il.
On reste en Afrique de l'Ouest, en Guinée-Bissau, le PAIGC, principale formation politique du pays, a sommé le président José Mario Vaz dimanche de nommer un nouveau gouvernement dirigé par son chef, Domingos Simões Pereira, sous peine de manifestations de plus en plus importantes. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Malgré le bon déroulement des législatives du 10 mars dernier remporté par le parti PAIGC, la Guinée et Bissau peinent à sortir de la crise politique depuis le limogeage par M. Vaz il y a 4 ans de M. Pereira, alors Premier ministre. La Cour suprême a rejeté récemment un recours de l'opposition parlementaire contre la composition du bureau de l'Assemblée nationale qui a transmis le 26 avril dernier au chef de l'État le nom de M. Pereira pour le poste de Premier ministre. Pour le président, cette nomination ne dépend pas uniquement de lui, mais aussi du peuple. Le PAIGC a réagi hier en menaçant de mobiliser ses partisans en nombre à 6 mois de la date proposée pour la présidentielle le 3 novembre. La crise entre M. Vaz et Pereira, pourtant issus du même parti, inquiète la communauté internationale. Le pays a été secoué par des tentatives de putsch à répétition.
Actualité hors d'Afrique pour terminer. L'Inde a conclu dimanche son vote marathon de 6 semaines pour les législatives qui décideront de la reconduction au nom du Premier ministre nationaliste Narendra Modi à la tête de la démocratie la plus peuplée du globe. Les précisions avec Fatouma Kalala.
Le chef du gouvernement sortant espère décrocher un deuxième mandat de 5 ans. Les urnes livreront leur verdict ce jeudi, jour du dépouillement. La plupart des sondages publiés après la fermeture des derniers bureaux de vote hier prévoient une majorité parlementaire à la coalition sortante, emmenée par Narendra Modi et son Bharatiya Janata Party. Principale formation d'opposition, le Parti du Congrès, conduit par Rahul Gandhi, l'héritier de la dynastie Nehru Gandhi, serait en progression, mais pas suffisamment pour espérer pouvoir former le gouvernement. Les études d'opinion sont toutefois notoirement peu fiables en Inde, pays d'1,3 milliard d'habitants. Environ 900 millions d'électeurs était appelé aux urnes entre le 11 et le 19 avril.
Bras de fer États-Unis, Iran maintenant. Le président américain Donald Trump a menacé l'Iran de destruction en cas d'attaque contre des intérêts américains. Alors que les relations entre Téhéran et Washington sont extrêmement tendues depuis le rétablissement des sanctions économiques américaines en novembre dernier. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. www.voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.